know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune, 92 FM, et c'est maintenant.
Comme pour l'histoire, la place des femmes dans les milieux militants a été longtemps reléguée à un rôle de soutien très extérieur, moins central dans les luttes, moins essentiel. On oublie souvent qu'il existe une division sexuée du travail militant, comme il en existe une du travail non militant, et que le travail militant des femmes a toujours été nécessaire pour que les luttes gagnent. Pas de lutte, et a fortiori pas de victoire sans le travail souvent invisible des femmes. Aujourd'hui, les différentes vagues du féminisme ont joué leur rôle, on réhabilite la place des femmes dans les luttes et les milieux militants, a fortiori d'extrême gauche, intègrent ces questions-là.
En réalité, même si les questions féministes sont sincèrement prises en considération dans les collectifs, les syndicats, les groupes politiques, beaucoup de militants et militantes manquent cruellement de formation là-dessus, et du coup, pour peu que t'aies 2-3 trucs à dire sur le sujet, tu deviens vite la référence en matière de féminisme, jusqu'à parfois te sentir presque comme la caution féministe, tant le travail repose quasi en intégralité sur toi, ou le petit groupe non mixte ou en mixité choisi que tu t'efforces de tenir avec les quelques autres bras qui acceptent de le faire aussi.
Et là, faut pas être à la contradiction près. Entre le taf spécifique sur le sujet, les quotas dans les organisations politiques ou syndicales imposés de l'extérieur, ou que ces cadres s'imposent eux-mêmes pour avancer sur la parité, on pense à la vitrine, avoir des listes paritaires par exemple, y compris au sein de petits groupes, avant de se demander pourquoi on n'a pas plus de femmes dans nos groupes. Tu deviens rapidement l'incarnation du quota. Il faut être partout. Pour certaines, on est au-delà de la triple journée de travail. Boulot, foyer, travail militant, c'est carrément des doubles, voire des triples vies.
Être une meuf dans les organisations politiques ou syndicales, c'est aussi assurer plus de temps de réunion que les autres. Bien sûr, on est tous contents et contentes de se retrouver en non-mixité, et on sait que c'est nécessaire, mais sur un week-end de réunion, c'est un temps supplémentaire, souvent calé tard le soir, quand les autres vont commencer l'apéro, ou bien à midi, où tu fais la réunion un ordi dans la main, ta salade de pâtes dans l'autre, pour pouvoir reprendre les réunions avec tout le monde à l'heure. Des journées interminables, dont tout le monde ne prend pas encore bien conscience. On avance avec les idées de garderie collective, de partage des tâches, pour savoir qui cuisine, etc. Mais de manière générale, on peine encore à appliquer ce qu'on revendique pour la société. Et les groupes dans lesquels le fonctionnement est correct reposent sur une charge mentale et une organisation qui reste pensée et portée par les femmes. Après tout, c'est toi qu'on va décharger des trucs que tu fais d'habitude, alors c'est mieux si c'est toi qui prends ces questions-là en charge.
C'est ça aussi, la division du travail militant. Pendant que les femmes et les minorités de genre s'efforcent de penser le cadre et d'en faire un truc vivable, parce que militer, c'est du travail en plus pour tout le monde, les hommes souvent vont gérer les tâches plus valorisées, écrire des textes, intervenir dans des réunions. Récemment, une camarade me disait qu'elle voulait rester une petite main. Ça m'a brisé le cœur. Cette meuf, elle a monté un collectif féministe dans sa ville. Elle s'attelle à la construction d'un second. Elle donne des cours de FLE bénévolement. Elle relie les articles d'une revue, pense toujours à relancer les camarades quand ils risquent de manquer d'articles. Elle est là, partout, tout le temps, mais invisible, ou plutôt invisibilisée, parce que moi je la vois. Big up à toutes celles, et elles sont nombreuses, qui font ce qu'elle fait. Les groupes militants existent et tiennent grâce à des personnes comme elle.
Pas mal de meufs militantes se demandent régulièrement si elles sont animatrices BAFA ou des camarades comme les autres, tellement elles ont l'impression de devoir gérer le care de bout en bout. Et quand t'abordes frontalement la question du soin, du cadre dans les groupes politiques, c'est la grosse claque dans ta gueule. Parce que le soin, les émotions, c'est pas politique. Et en plus, c'est subjectif. Moi, comprenez, moi, homme viril, je milite par devoir, donc je gère et j'assure. Dans ces moments-là, toi, tu souris gentiment. Tu culpabilises aussi d'avoir dit que, peut-être, on pourrait se répartir mieux les tâches. Tu te sens pas à la hauteur, évidemment, tu te sens faible. Puis un jour, il y en a un qui craque, alors tu endosses ton rôle habituel, et tu l'appelles ou tu lui envoies un petit message en perso. Et là, c'est l'épanchement. On te remercie de penser aux autres. Ça fait si plaisir, c'est si agréable. Mais les émotions, le soin, c'est pas politique, hein.
Militer, c'est aussi accepter en partie ces contradictions, parce que t'as quand même l'impression que c'est le premier endroit où tu vas pouvoir les résoudre. Ou en tout cas trouver collectivement des solutions, des idées, des revendications. Comme celle de grève féministe qui, enfin, est reprise et appuyée dans certains syndicats et groupes politiques en France et qui a mis les femmes au centre du mouvement social en Argentine ou en Espagne par exemple. Une grève qui montrerait tout le boulot qu'on abat tout le temps, y compris dans les milieux qui revendiquent cette grève. Pas sûr que tout le monde soit prêt à ce qu'on arrête de faire ce travail-là, mais ça aura le mérite de le rendre visible. Et la politique, elle est aussi à nous.
Dans Tout Feu, Toute Flamme, on jongle avec des concepts, on théorise comme Jaja, on devient des queens, des idées sont même à avoir à lire des gros bouquins.
Même si on peut, hein, c'est pas interdit. Hein.
Histoire de boxer avec les mots.
Et les mâles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, on en est sûr, ne vous saoule pas du tout, ne vous harcèle pas jusqu'à l'indigestion que vous alliez, ne vous empêche sans doute pas de dormir, j'ai nommé la politique.
En politique, on est hachement baise.
Ouais, on sait bien qu'on n'a pas de personnalité, mais bon, avril quoi. Les bourgeons qui bourgeonnent, les papillons qui papillonnent, les élections qui sélectionnent. Alors nous, bah, ni une ni deux, on s'est dit, pourquoi qu'on ferait pas une spéciale les femmes en politique ?
Exactement, Mago, fera un vaste sujet qui va nous emmener une nouvelle fois dans les bas-fonds de l'histoire et des discours, en quête de la parole toujours déjà silenciée des femmes, grandes exclues de la sphère politique. Alors, pas question pour nous de parler d'actualité, mais bien plutôt des enjeux socio-historiques du pourquoi, du comment on en est à la 5e République, au 25e clampin aux dents longues pensionnaire de l'Élysée et porteur de couilles, mais toujours point de femmes dans la liste en presque deux siècles de, ouvrez les guillemets, démocratie, fermez les guillemets.
Et fermez vos gueules. Nos alliés théoriques du jour seront Mathilde Larère, historienne politique et spécialiste des mouvements révolutionnaires, autrice de « Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance » et également de « Rage against the machisme ».
On adore.
Marie-Cécile Navès, autrice de « La démocratie féministe ». Sophie Lemayeux, historienne de la mode et autrice de « S'habiller en politique, les vêtements des femmes au pouvoir de 1936 à 2022 ». Camille Froide-Vaumettery pour son docu-fiction Dans la jungle. Et bien entendu, notre cher Platon. Non, je déconne, on est pour la cancel culture, faut pas déconner.
Lol. Commençons comme d'hab par un petit historique. La politique désigne la conduite des affaires de l'État et par extension toute personne qui s'en charge. Alors il y a des écrits qui sont fondateurs pour penser la politique. Sans doute aucun n'atteint la somme totalement indigeste de Platon qui a sans doute traumatisé certaines d'entre vous et qui s'appelle La République. Il y part du constat que la gestion de l'État à son époque va mal, ça a vachement changé. Dans cette description d'une cité que lui considère comme une utopie, il semble donner aux femmes le même rôle et les mêmes aptitudes qu'aux hommes, sauf que, elles sont cantonnées à la maison et au nouveau-né.
Le rôle des femmes à l'Antiquité est donc sans surprise celui de reproductrice qu'on enferme au gynécée, le nom grec du harem, et qui ne sort que la tête couverte. Elle fait figure de citoyenne au rabais, au mieux, voire pas de citoyenne du tout. Et oui, elle est juste au-dessus des esclaves et des métèques qui sont les étrangers et qui n'ont pas de statut intégré. De justesse, ouf. Un dramaturge célèbre de l'époque, Aristophane, s'amuse à imaginer ce qu'il adviendrait si les femmes prenaient le pouvoir dans sa comédie « L'Assemblée des femmes ». Il fait de même avec les oiseaux d'ailleurs, parce que les femmes sont des bêtes. L'Assemblée des femmes vise à critiquer une crise de la démocratie, sauf que, au lieu de critiquer les hommes qui en sont responsables, on tourne en ridicule les femmes et leurs réformes grotesques dans la pièce. Par ailleurs, les femmes y sont dépeintes, obsédées du cul, vulgaires et alcooliques. Ça vous rappelle quelqu'un ?
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Hypocrite ! Hypocrite ! Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes ! Des hypocrites ! Des hypocrites ! Au nom de la République française, ce sont des tartuffes.
Concrètement, et pour se répéter d'émission en émission, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les femmes sont résolument exclues de la politique époque après époque, à quelques notables exceptions près, à qui on en a fait baver parce qu'elles étaient des femmes. Alors il y a le cas d'Elisabeth Ier d'Angleterre qui est assez symptomatique. Elle débarque dans un pays où elle est considérée comme bâtarde, elle est protestante alors qu'on viendrait de rétablir le catholicisme. Et pire que toutes ces autres tares, c'est une meuf. Première de toutes ces mesures, elle déclare devant le Parlement qu'elle restera vierge à jamais. Ça lui permet d'évacuer toute forme d'érotisation de sa personne et de conserver le pouvoir pour elle-même sans le partager avec son époux. Elle passera ensuite son règne à dire qu'elle est un homme en dedans. D'ailleurs, il y a même une rumeur, théorie du complot, qui court encore aujourd'hui, qu'elle aurait été remplacée très jeune par un jeune garçon. Voilà, on ne peut même pas imaginer qu'une puissante souveraine ait pu être une meuf.
Aux yeux de la société, pendant des siècles, une femme qui parle de politique, c'est vulgaire, c'est interdit, c'est très mal vu. On lui interdit bien évidemment le droit de vote, celui de se présenter aux élections. Elle est évacuée des champs légaux, exclue des métiers de magistrature et d'administration, et de ce fait, invisibilisée dans les textes. Pendant l'Ancien Régime, néanmoins, les abbesses, c'est-à-dire les chefs des abbayes, donc des religieuses, et les veuves qui géraient les fiefs, avaient le droit de voter aux états généraux. Bon, c'est très spécifique. Religieuse ou veuve riche, on voit le degré de classisme, et on voit surtout qu'une femme sous la tutelle d'un mari ou d'un père n'a pas son mot à dire. Elle n'est qu'une possession, après tout. C'est paradoxalement la Révolution française qui va interdire à toute femme de voter le 22 décembre 1789. Égalité, hein. C'est pas comme ça que ça marche.
Bah si, chat, bien sûr, comme ça, il n'y a pas de jalouse. Alors, il y a plusieurs penseurs et penseuses qui s'opposent à cette exclusion. On notera notamment Condorcet, qui se dédie à cet allié de l'ancien temps, qui voulait faire des femmes des citoyennes à part entière. Et puis, on va s'attarder un petit peu sur notre héroïne Olympe de Gouges. Elle fait paraître la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 pour défendre la nécessité de l'accession à la citoyenneté pour les femmes. Parce que comme dans tout mouvement populaire et militant, elles ont été très représentées parmi les sans-culottes. Et on voit du coup avec quelle gratitude quand le mouvement a abouti. Les écrits d'Olympe de Gouges luttent contre la tyrannie, dénoncent l'esclavage, s'insurgent contre la peine de mort et réclament l'égalité femmes-hommes. Quelle honte ! Résultat, elle est guillotinée en 1793. Normal !
Alors que c'était une féministe intersectionnelle, hein, comme on peut le voir.
Qu'on leur coupe la tête ! Déjà le bourreau s'apprête, on va leur couper la tête. Ces jardiniers, leur mérité, justice doit être faite. Oh, on va leur couper la tête !
Silence !
Le 19e siècle accumule les régressions de tout genre qu'on ne va pas lister ici. Et ce n'est qu'en 1944 qu'on obtient le droit de vote en France. Attention, parce qu'on est parmi les derniers pays à l'accorder aux femmes. Or, rien n'est encore gagné à ce stade, car le problème épineux auquel nous allons arriver maintenant, c'est la question de la différenciation entre les femmes politiques et les hommes politiques. Après des siècles de lutte et de réclamation de droits, après des pas en arrière sur ce qui est déjà rétrograde et arriéré en matière d'intégration, au prix d'une ou deux têtes de femmes.
Bon, une tête de femme, c'est vide, chat, c'est pas bien grave de la couper.
Oui, certes. Bon, après tout ça, donc, on arrive enfin au droit de vote des femmes, qui n'a que 75 ans, finalement, au jour où on parle. Il y a donc aujourd'hui encore des femmes vivantes et en pleine forme en France qui sont nées et ont vécu à une époque où les femmes ne pouvaient pas voter. Juste digérer ça une seconde.
De septagénaire bien rempli plus tard, on se dit que les femmes ont quand même eu pas beaucoup de temps à l'échelle de l'histoire de notre civilisation pour pouvoir conquérir, asseoir et consolider leur place en politique. Déjà que les ouvriers n'y sont toujours pas parvenus depuis plus de deux siècles post-révolution française, que ce sont toujours les riches blancs cisgenres qui ont eu accès à des études politiques, du réseau et du fric et qui conservent encore aujourd'hui le monopole du pouvoir, exactement comme sous l'Ancien Régime. Vu qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à conquérir leur place, quels sont aujourd'hui les constats sur la place des femmes dans la politique ?
Eh bien, des constats bien déprimants, ma poule. En 1993, seulement 6% de femmes siégeaient à l'Assemblée, soit aussi peu qu'en 1946 finalement. D'après certains mathématiciens qui se sont amusés à faire des calculs sur la base de la courbe d'accroissement naturelle de la parité, celle-ci ne pourrait être atteinte qu'en 2350 !
Vivement !
Face à ce constat merdique, Yvette Roudy, Antoinette Fouque et Simone Veil réclament que la parité soit inscrite dans les textes de loi, ce qui n'adviendra que sous majorité socialiste via Lionel Jospin. En 2000, la loi exige qu'il y ait autant de femmes que d'hommes candidats lors des scrutins de liste. Si tel n'était pas le cas aux élections législatives, les partis politiques concernés reçoivent une pénalité sur le financement public pour les formations.
Alors là, on se dit qu'on est obligé d'aller loin pour réclamer quelque chose qui tient finalement de l'évidence, à savoir l'idée que les politiques sont censés représenter toute la population dans sa globalité. Et donc parvenir à l'égalité, ce serait quand même un peu remplir le contrat de notre slogan national. Et bien apparemment, c'est encore pas assez loin. Au Conseil Généraux, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, les femmes représentent toujours moins de 25% des élus, parfois même moins de 20%, en fonction des assemblées que je viens de lister. Avec des chiffres aussi honteusement bas, on se dit qu'on est super bien représentés, c'est si rassurant et c'est si touchant. Par ailleurs, aux élections de 2007 quand même, l'UMP a préféré avoir une amende de 4 130 000 euros sur sa dotation publique plutôt que de présenter la parité. En 5 ans, ils auront réussi à cumuler 20 millions de pénalités, 20 millions, juste pour ne pas avoir à représenter ces salopes de femmes sur leur scrutin.
Tu en bégayes du coup ?
Oui, ça me reste en travers de la gorge. Parce que tu payes quand même cher ta putain de misogynie, j'en couille. Mais ça vaut le coup parce que comme ça on peut rester entre mecs.
Et en effet, l'entre-couille et l'entre-soi sont un peu les mots-clés du game politique. Alors pour les rares qui parviennent au Saint Graal de la vie politique, que se passe-t-il ? Eh bien d'après Laurence Larrère, elles sont perpétuellement ramenées à leur genre, notamment à l'émotionnel.
Quand Arlette chante, c'est de la verdure, sur un monde difficile dur. Les paroles bien sûr ont un peu d'usure, mais elle chante avec un air pur. Elle utilise la fraîcheur mentholée, le pépermint pour donner son idée. De partager les baisers, les cerises, et même si c'est des bêtises, que c'est gentil, que c'est beau. Arlette, it be Arlette's go.
Que c'est gentil, que c'est beau des femmes qui disent des bêtises. Dès qu'elles évoquent quelque chose, on les accuse de verser dans le pathos, voire d'être hystériques, et donc incapables de jauger posément et rationnellement de la situation. Il n'y a qu'à voir les récentes insultes de Trump à Thunberg, l'accusant d'avoir des problèmes de gestion de la colère, et lui proposant de « chill » en matant un bon film. Une technique de silenciation au poil.
Juste l'hôpital qui fout de la charité, hein, c'est toujours si gros.
En plus de les ramener à leur genre, on les ramène aussi à leur sexe. Elles sont évidemment accusées d'avoir couché, ou alors on les sexualise, mettant donc en question leur légitimité et leurs compétences pour en être arrivées là. Ça donne envie d'avoir de tels dirigeants qui pensent ça des compétences féminines, non ?
Compétences féminines, c'est pas un oxymore ? On en reparlera pour les figures de style. Alors, au chapitre de la sexualisation, on en revient à cette obsession des vêtements. On a pu le constater, le vêtement en politique, c'est comme tout, c'est polémique. On peut voir ça, BFM qui organise une table ronde pour critiquer Poutou, qui vient en t-shirt au débat des présidentielles quand ça dérange absolument personne qu'en face, Fillon ait payé son costard Armani avec du fric détourné, du moment qu'il est en costard Armani, parce que c'est ça le vrai respect. Il y a quand même eu scandale aussi avec un député polynésien qui était venu en lava-lava, tenue traditionnelle de Tahiti. Donc là, on voit aussi qu'il y a une dimension racisée au costard. Pour les femmes, la question des fringues est perpétuellement épineuse. Déjà, commençons par noter que Michèle Alliot-Marie a révolutionné le game en 1972 lorsqu'elle est venue en pantalon à l'Assemblée. Et on a menacé de lui refuser l'accès à l'hémicycle. Elle a donc, elle, en face, menacé d'enlever son pantalon.
En même temps, elle était hors la loi puisque le port du pantalon pour les femmes n'a été légal qu'en 2003. Et oui, faut le rappeler quand même. Dans la logique des injonctions contradictoires et éreintantes du patriarcat, c'est désormais la jupe qui est mal vue, parce qu'elle expose les femmes à la sexualisation, à des remarques déplacées et des accusations de manque de sérieux. Ah oui, rien que ça. Exemple criant, Cécile Duflot sifflait en pleine assemblée pour sa robe en 2012.
Les mêmes blancs qui vont venir vous dire que dans certains quartiers, c'est pas safe pour les meufs. Donc là, apparemment, faites gaffe, parce que quand vous traversez l'assemblée à certaines heures, ça reste une no-go zone.
Autre critère de féminité construite auquel on les ramène constamment, la maternité. Larrère explique bien qu'une femme en politique se voit régulièrement accusée d'être une mauvaise mère, de délaisser ses enfants, et les questions sur l'impossibilité de concilier vie de famille et vie politique sont réservées aux femmes. On ne s'inquiète pas de savoir si Sarkozy rentre à temps pour torcher le cul de son bébé. C'est d'ailleurs un autre point d'exclusion des femmes en politique, celui de la temporalité. Le temps est pensé pour les hommes, du moins ceux qui ont une femme à la maison pour tout faire, ou pour les riches qui peuvent payer des employés de maison.
De fait, ce temps-là, ce temps de la politique, il est excluant pour les femmes qui ont un travail et ou une famille, et pour les hommes des milieux ouvriers, parce qu'on pense la politique comme pouvant se faire hyper tardivement sur des heures nocturnes, sur des moments de repas, des moments de déjeuner. Alors est-ce qu'on veut vraiment être représenté par des gens qui font de la politique leur source de revenus, qui font ça pour le blé ? Parce que ça voudrait dire qu'ils ont en tête des intérêts pécuniaires et individuels et pas forcément des intérêts sociaux et collectifs.
Étonnant.
Alors, exclus, silenciés, sexualisés, dévêtus puis rhabillés, les femmes sont également aux surprises, hein, animalisées. Ces dernières années ont vu leur lot de scandales à l'Assemblée avec des hommes adultes bedonnants imitant des cris d'animaux pour se moquer des députés. Bêlement de chèvre pour Alice Thoureau en 2017, cri de poule, comparaison de Taubira à un singe, merci le FN. Et puis quand on en a marre de la faune, bah on passe à la flore avec la comparaison de Fleur Pellerin à un pot de fleurs. Ah, l'humour phallocrate. Que deviendrait notre belle culture française sans les répugnons d'Aron et leurs blagues de merde ?
« Oh, nous serions si perdus. Évidemment, avec tout ça, pas étonnant qu'on nous oublie. Alors l'ARR cite des exemples où on a carrément oublié les députés meufs lors de cérémonies, en mode
« Dommage que la députée ne soit pas là ».
Alors qu'elle était à côté, ou alors
« Découpons le cordon de la cérémonie pendant qu'elle est aux chiottes ».
Et quand elle revient
« Ah bah, on l'avait oubliée celle-là
». Autre forme d'oubli, attention, la liste est longue et non exhaustive. Elles ont moins de temps de parole dans les médias et à l'Assemblée où généralement, elles notent qu'on ne les écoute pas, que les mecs checkent leur portable, parlent entre eux, voire en profitent pour faire un petit somme, ou alors les interrompent. C'est au choix.
Petit mansplaining politique. Ou alors, elles apprennent le lendemain que des décisions ont été prises pendant que les mecs étaient au café ou au resto entre couilles et qu'elles n'ont pas été invitées. C'était informel, tu comprends. Mais on en a profité pour faire avancer le dossier.
On n'adapte pas les micros à leur voix, mais à celle des mecs. Résultat, elles ont généralement la voix plus aiguë et certains électeurs ont déjà avancé qu'ils ne voteraient pas pour telle ou telle femme à cause de sa voix agaçante. Tout va bien. Certains articles vont même jusqu'à montrer que c'est fait exprès pour rendre leur voix insupportable et donc les décrédibiliser.
Sympa! Enfin, quand parité il y a, elle est ce qu'on appelle quantitative et pas qualitative. Kizako, nous direz-vous ? Eh bien, ça veut dire que dans les chiffres, elles sont bien là à presque 50%.
Généralement, plutôt 47%, mais bon, on va pas chipoter, hein.
On va pas chipoter. En revanche, ce n'est certainement pas dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont là, mais elles sont cantonnées et assignées à des tâches de meuf, dont les mecs ne veulent pas. Type la petite enfance, l'art, l'éducation, mais certainement pas l'économie, la finance, le domaine militaire ou les affaires étrangères. Laissons-les faire leur dinette, ça les occupera, Jean Sismon. Et pendant ce temps-là, on peut déclencher des guerres, supprimer l'ISF, passer la loi travail et se barrer dans des paradis fiscaux. Oui ! Alors il faudra faire un numéro spécial pour mentionner celles qui cumulent, à savoir les femmes racisées, parce que dans le domaine, elles ont tous les plafonds de verre possibles et imaginables sur la tête.
Encore une fois, Mareuil, leurs têtes sont vides, attention, c'est pas si grave. Au moins, on ne la leur coupe plus. Elles vont arrêter de râler, non ?
C'est pourtant vrai qu'on a progressé et que c'est pire ailleurs. Arrêtez de vous plaindre à ralala !
Oublier, sexualiser, mais aussi animaliser. Ah, j'adore les karaokés. Ces fichues bonnes femmes qu'on appelle généralement par leur prénom, Cybette, Arlette, ne méritent apparemment pas leur place en politique. Ce que leur rappellent sans cesse des mecs cis genre blancs riches qui ont les moyens de payer des amendes et de se faire des restos clandestins. Les dérives vont évidemment très loin puisque la loi du silence sur les viols...
Coucou Gérald !
...est plus que jamais de mise quand il s'agit de couvrir ces hommes puissants. Un cas local récent le montre, l'ancienne conseillère municipale à Saint-Nazaire, Gaëlle Betlamini, tente aujourd'hui de se battre pour faire entendre son viol par un ancien adjoint aux finances de la commune, Martin Arnoux. Ce n'est que parce qu'une autre femme s'est manifestée qu'elle ose aujourd'hui ouvrir la voie, tant la peur de la violence et des représailles est forte.
On ne s'étonnera donc pas du nombre impressionnant de scandales sexuels dans notre pays qui concernent la sphère politique, mais pas le gouvernement Macron, bien sûr, puisqu'il avait promis des élus irréprochables.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, veux. Vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France.
Le problème et les conséquences de cette absence des femmes, ou quand elles sont présentes, de leur silenciation et marginalisation, ou de l'énergie dépensée à justifier une place qu'elles ont gagnée par leurs compétences et par des élections légitimes, c'est un ensemble de législations rétrogrades qui empêchent de faire avancer la cause. C'est un plafond de verre qui se répercute dans tous les domaines sociaux. Donc en matière des droits des femmes, on est ainsi passé d'un ministère à un secrétariat.
Un secrétaire étant avant tout un meuble, on le rappelle. Pour se faire entendre, les femmes doivent prendre sur leur temps libre, en marge de leur boulot et de leur éventuelle vie de famille, pour militer dans des cadres qui font passer leur lutte pour marginal et leur militantisme pour un hobby, avec tous les risques qu'on connaît du fait de devoir se faire entendre, principalement par le biais des manifs, de plus en plus violemment réprimés sous Macron.
Oh mais ça va quand même, la violence policière, qu'est-ce que tu racontes ?
Oui, c'est vrai, on n'a aucune preuve. Ça demande beaucoup plus de temps et de courage de le faire dans ce cadre, mais on continue à préférer des types riches qui veulent les postes pour leurs intérêts et l'accroissement de leur fortune et de leur sphère d'influence. Comment un mec qui n'a jamais eu à vivre avec des APL ou le RSA et accumulé vie privée et vie professionnelle et également vie militante pourra un jour se mettre à la place de la majorité des Français et des Françaises ?
Mystère et boule de gomme. De des gouvernements où les femmes ont pris le pouvoir. Oui, j'ai dit quid, because je suis une femme cosmopolite.
C'est une insulte ça, cosmopolite, non ?
Moi je suis cosmopolite. Si on prend des exemples de rôle modèle anciens, on sera bien obligé de reconnaître que, déso pas déso, Aristophane avait tort.
Quoi ? Mais, serais-tu adepte de la cancel culture, Mareuil ?
Chut, chasse, ce n'est pas le sujet du jour. On peut se référer à des chefs au pouvoir ultra badass, Hatshepsut, Cléopâtre, Nzinga, certaines que vous pouvez trouver dans la BD dont on parlera, Culottée de Pénélope Bagieu, qui ont jalonné notre histoire, donc il y a bien eu des dirigeantes effectives. De nos jours, 11 femmes sont à la tête de pays européens. On peut citer la première ministre de Finlande, Sanna Marin, qui est issue du milieu populaire, qui a été élevée par deux mamans, qui prend son poste à 34 ans et en profite pour placer d'autres femmes du même âge, à des postes clés, dont l'économie. Au grand étonnement de tout le monde, le pays n'a pas versé dans la crise ni la guerre civile.
Étonnant. Pour terminer sur ce panorama, on notera que la pensée politique portée par les féministes se propose comme une alternative aux gouvernances hyper réussies de ces dernières années. C'était pas censé être drôle. Hein.
Bah si.
Qui ne nous ont pas du tout plongé dans une crise sociale, écologique et économique sans précédent.
On sait quand ça commence, pas quand ça finira. On sait qu'on a la chance, terrible d'être là. Malgré ce que l'on pense, et tout ce que l'on voit. Si donner un sens à tout ne se peut pas. Oh hero, oh hero, oh ironie de nos danses. Oh hero, oh hero, oh ironie de nos choix.
Pour les féministes, la pensée politique doit être basée sur des valeurs étiquetées de femmes, telles que la sororité, donc l'intérêt collectif et la solidarité, l'empathie et le care.
Qui fera l'objet d'une émission spéciale à venir, stay tuned.
Mais également principe d'équité plutôt que d'égalité, dont on va reparler plus tard.
Exactement, on en parlera dans le mot du jour. Les féministes affirment aussi la nécessité de prendre en compte les émotions et le sensible plutôt que de reposer que sur la grande émotion du patriarcat. Le ressentiment, ça vous dit quelque chose des mecs pleins de ressentiment et d'envie de revanche qui basent leur politique sur l'attaque d'une catégorie de population plutôt que sur la défense de toutes les catégories ?
Je cherche mais je trouve vraiment pas. Enfin, elle refuse la personnalisation de la figure politique qui n'est pas là pour incarner le pouvoir mais pour l'exercer avec donc justice et équité. La personnalisation du pouvoir politique est un ressort de totalitarisme, exemple de Staline ou Hitler qui établissent un culte de leur personne. On la retrouve aussi dans le populisme, où on voit se présenter des gens qui mettent en avant leur petite personne plutôt qu'un véritable programme, qui se présentent comme eux-mêmes, un produit marketing mix d'une présence médiatique, d'un style vestimentaire et d'un comportement très marqué, plutôt que comme le représentant de tout un parti.
Je t'admire intensément, je suis ton parcours en secret. Je veux t'écrire depuis longtemps, et cette année je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes, par ton charisme et ton talent. Tu parles fort, t'en fais des tonnes, pour moi c'est bien toi le plus grand. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les mécanismes d'exclusion des femmes en politique et les possibilités pour elles de mettre en place des gouvernements sains si elles parviennent à prendre le pouvoir. Mais on va s'arrêter là et, comme d'habitude, terminer par un petit mythe du jour, celui de la figure d'Antigone qui représente bien les difficultés des femmes en politique. Alors brièvement, Antigone, c'est la fille d'Œdipe et de sa mère Jocaste, donc ils sont demi-frères et demi-sœurs, mais on s'attardera pas là-dessus. Elle revient dans sa ville d'origine Thèbes à un moment de guerre civile entre ses frères jumeaux qui se battent pour le trône. Et lorsque les deux meurent, leur oncle, le roi Créon, qui prend le pouvoir à ce moment-là, décide de n'enterrer que Éthéocle et de laisser Polynice pourrir au soleil, en sachant que c'est très grave en Grèce de faire ça parce que son âme va errer pour l'éternité. Antigone refuse cette punition marquée par justement l'instinct de vengeance et l'instinct de ressentiment qui va au-delà des lois de la famille. Et donc comme elle trouve que le pouvoir arbitraire utilise là une sanction qui n'est pas justifiée, qui n'est pas juste, elle décide de s'opposer au pouvoir. Et donc de ce fait, elle va enterrer rapidement son frère et la sanction et la condamnation à mort, elle est asphyxiée dans une grotte. On voit en fait dans ce mythe qui est très très connu qu'elle représente la personne qui dit non lorsque le pouvoir devient arbitraire, lorsqu'il fait fi des relations et des liens humains, les relations du care et du soin. Et quand la punition qu'il propose face à une règle qui est complètement totalitaire et complètement injuste devient démesurée, on a là la marque d'une dictature.
Alors la figure d'Antigone, elle est beaucoup présente encore de nos jours. Elle a été racontée dans des poèmes, dans des pièces de théâtre, dans des films. Et récemment, on a aussi comparé la figure d'Assa Traoré à Antigone. Assa Traoré qui a voulu donc enterrer son frère et dénoncer des violences policières. Action !
Dans Une goutte d'eau dans l'océan, made in charbons ardents sur Prune 92 FM, on critique, on triquilite et on désingo KLM, meilleur qu'une battle de rap contest en mode « Hey yo yo !» parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or et qu'un système, ça passe par bien des biais pour nous conditionner à croire l'incroyable et accepter l'impensable.
Aujourd'hui, on va parler d'un triste sire et essayer de se retenir de l'attaquer sur son physique, même si c'est difficile. Comme on n'a pas envie de dire son nom parce que ça risquerait de nous filer des aftes ou de l'herpès, on vous dira à qui il ressemble.
Il nous faut le précieux. Nous devons le reprendre.
Et on le désignera par le doux pseudonyme de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg.
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. Je suis enchanté de vous revoir enfin.
Ah, je me souviens très bien de vous.
Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est, à travers le discours de Zorg et son poignant livre sur ses restos hors de prix dans tout Paris, avec tout le bas-fond du gratin médiatico-politico blanc cis être riche, de découvrir quelles sont les figures de style qui structurent les prises de parole politiques pour nous mettre de la poudre aux yeux.
On va mixer des passages de son livre, un monument de caca, pardon, de langue française ampoulée et de vent, et qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot ». Récit poignant dans lequel Zorg nous raconte sa petite vie et son gros crush non assumé pour Omar Sy. Citation Serge.
Voilà un homme blanc, riche, mais petit et paralysé, grincheux, renfrogné. Et à son service, un homme noir, grand, beau, séduisant, alerte, drôle, bon, généreux, et dont on découvre in fine qu'il danse comme Fred Astaire et peint comme Picasso.
Omar Sy s'avérait l'acteur idoine, son corps musclé et félin, son sourire béat, son regard vide, son goût pour la tchatche acquis au cours de sa jeunesse attrape, son antiracisme arrogant, son militantisme confessionnel, son exil à Los Angeles avec les trois premiers sous gagnés grâce au cinéma français, tout en faisait l'incarnation de l'homme nouveau que le film glorifiait.
Pauvre John Baptiste Smeagol-Zorg, paralysé dans son petit corps et sa mentalité d'incel, brûlant d'un amour sans retour pour un grand noir, musclé et félin, il se lança en politique armé de bile et de dépit et confiant en une plume médiocre que nous nous proposons aujourd'hui de désinguer. Pour celles et ceux que le bac de français traumatise encore, qui ne se souviennent qu'avec effroi des métaphores, hyperboles et synecdoques, trigger warning. Ce segment présente des armes rhétoriques pour analyser des discours qui cachent derrière des figures de style niveau 4e un gros bon bloc de rien.
Et pour tout le monde, le trigger warning, c'est qu'on va citer dans le texte des extraits du livre de Zorg et de l'introduction de son discours à Villepinte le 5 décembre 2021, republié par un média que personnellement on adore.
Valeurs actuelles !
Oui !
Donc aujourd'hui, on va parler de trois types de figures.
Allez, c'est parti, oulala, le cours de français, trop bien, quel bonheur!
On va parler rythme, tempo, Paris Latino, avec l'anaphore et la gradation ternaire.
On va parler exagération sans fond et ballon de baudruche avec l'hyperbole. On voit pas le fond du bol. J'ai grandi avec Eric et Ramzy. Donc...
C'était sublime.
On terminera sur le populisme à la mode de chez nous, avec l'énonciation, autrement dit, l'usage des pronoms de manière stratégique. L'anaphore consiste à répéter un mot ou groupe de mots en début de phrase. Elle permet de créer du rythme. C'est un peu comme une litanie, même principe qu'une chanson ou la messe.
Alléluia.
Le cerveau humain, il aime bien les anaphores. Ça rend le propos mémorable, en fait, parce que c'est facile à retenir. Façon, j'accuse de Zola dans l'affaire Dreyfus. Exemple d'anaphore chez notre ami Jean-Baptiste Emmanuel Zorg.
Je vais vous raconter l'histoire de ce que vous avez accompli ces derniers mois. En juin dernier, sur tous les plateaux, dans tous les dîners en ville, dans tous les instituts de sondage, la chose était entendue. Le second tour était connu de tous. Macron ne pouvait que gagner. Cette présidentielle n'avait aucun intérêt.
C'est si intense. Petite anaphore, donc ici, procédé hyper classique, c'est pas un discours qui est très bien écrit, sur tous les plateaux, dans tous les dîners, dans tous les sondages. On notera ici un petit tableau de la vie de Zorg. D'abord la téloge, ensuite les dîners entre couilles dans des gros restos urbains, et seulement après les sondages. Bon, déjà, quand t'es d'un petit bled de province, tu sens que le mec va savoir représenter tes intérêts.
Nous sommes en guerre.
Et puis, une rumeur s'est mise à courir. Oui, j'ai longtemps hésité, mais vous êtes arrivés. Nous sommes arrivés. Et nous avons bouleversé les plans les mieux établis. Nous avons rompu le pacte tacite entre tous les acteurs de cette farce. Depuis, nul n'ose prédire les résultats de l'élection qui vient.
Alors là, énorme, on tombe vraiment là dans cette énonciation stratégique. Le cum fait un jeu sur les pronoms. D'abord, j'ai hésité, mais vous êtes arrivé. Et bim, ça a fait des chocs à pic, un nous flamboyant. Mais bon, c'est vous qui m'y avez poussé. Hein. Moi, je me serais pas lancé en politique, je suis trop modeste. Alors donc, Zorg était en mode gros dilemme chez lui. Et c'est là qu'ont débarqué une poignée d'abonnés de Valeurs Actuelles dans son salon pour lui dire
« Wesh gros, sois président !»
On va citer ici l'introduction de son éminent livre qui retrace la genèse édifiante entre sortie au ciné et resto de fruits de mer entre couilles de sa présentation à la présidentielle.
Depuis des mois, voire des années, de nombreuses personnes, des amis et des inconnus, célèbres et anonymes, m'encourageaient à me jeter à corps perdu dans l'aventure présidentielle. Ils étaient parisiens ou provinciaux, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, militants politiques ou spectateurs.
Ils étaient restaurateurs ou cadres. Caissière ou médecin, ingénieur ou éboueur, haut fonctionnaire ou universitaire, ils argumentaient ou se contentaient d'un signe de la main.
Alors, moi aussi, ma grand-mère m'a déjà dit de me lancer en politique quand on mange des frites en écoutant le jeu des 1000 euros et que je m'énerve qu'elle critique les grèves. Et moi aussi, des inconnus, restaurateurs ou cadres, caissiers.
On notera que pour Zorg, être caissier, c'est forcément au féminin. Le reste est au masculin.
C'est vrai. Ou médecin, ça c'est pas au féminin. Ingénieur et Uber, ça non plus. Aux fonctionnaires ou universitaires, toute cette bande de personnes m'ont déjà fait toutes sortes de signes de la main et de la bouche et de l'œil. Bigre, j'aurais tellement dû me lancer moi aussi dans la course à la présidentielle.
Et moi donc ?
Contre moi, tout est permis, et la meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale, et les djihadistes veulent ma mort tout court.
Ici, le mec enchaîne avec une métaphore, il est l'objet d'une chasse sans merci, on veut sa mort, on veut lui jeter des œufs à la gueule.
Ça, c'est vrai.
La mégalomanie va avec un délire de persécution qui sous-entend bien que le mec est suffisamment important et dangereux pour qu'on en veuille à sa peau. On notera que tout ça, c'est que dans l'émotionnel. Aucun fait, aucun programme, aucune considération sur autre chose que lui, et les autres qui sont méchants. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, deux concepts que Zorg ne connaît pas.
Moi, je veux devenir une star. Je veux plus que mon public, ça soit seulement mes copains. Moi, je veux devenir une star. Je veux que mon public, ça soit tous des clients.
Nous avons l'habitude désormais. À chaque élection, le système exclut soigneusement les candidats qui lui déplaisent, avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. Nous savions qu'ils allaient s'en prendre à nous, et nous les attendions de pied ferme.
C'est là qu'arrive enfin la désignation de l'adversaire de Zorg, le système. Oui, Zorg lui-même est anti-système, qui l'eût cru ? C'est tout bonnement un coup d'éclair dans un ciel d'été.
Lui, Zorg, représentant des minorités opprimées blanches, cisgenres, hétéro. Minorités qui ne sont jamais représentées en politique, jamais représentées dans les milieux financiers.
Lui, Zorg, évincé des plateaux télé, exclu des hauts lieux mondains parisiens. Lui, Zorg, que le système veut abattre.
Glissement du jeu de Zorg au nous de la France. Glissement de la diversité de ses adversaires à simple il qui désigne apparemment le système tout entier. Zorg est un populiste, ça veut dire qu'il simplifie à mort les idées en reprenant des techniques d'orateur totalitariste. C'est quand il n'y a pas de complexité qu'il faut se méfier.
En m'attaquant, ils ont fait une seconde erreur. Sous-estimer les Français. Ils nous imaginaient endormis et fatigués, soumis et apeurés. Mais ce peuple extraordinaire a une capacité de résistance unique dans l'histoire de l'humanité.
Alors là, bon, on commence vraiment à la saturation, hein. Le mec s'invente des films, il essaye de nous embarquer avec un ressort qui est archi classique, le ressort qui fait que les gens aiment être les opprimés dans les histoires. Personne n'a envie d'être l'étoile noire, on préfère tous être Chewbacca. Donc là, ça fait quelques années qu'on essaye de faire entendre nos luttes dans l'espace public, sur les murs, les ondes, dans les manifs. Résultat, les blancs essayent de contrer en inventant le racisme anti-blanc. Les mecs en inventant le masculinisme. Les incels en blâmant un imaginaire matriarcat. Les grosses fortunes titrent dans les médias que eux-mêmes possèdent qu'il y a une, ouvrez les guillemets, haine des riches, fermez les guillemets. Et donc, qui a l'air persécuté? Bah les mecs cisgenres, hétéro, blancs, riches, endormis et fatigués, je cite Zorg, à force de bosser dans des tafs drainants, inhumains et sous-payés qui leur laissent 2 jours par semaine pour faire le ménage, regarder la télé et consommer. Ils sont, je cite Zorg, soumis et apeurés par une caste d'islamo-gauchistes qui fait les lois. Quoi ? On me dit dans l'oreillette que j'ai tout faux ? Mais je ne comprends pas. Pourtant, Zorg a dit que... Quoi ? Des chiffres, des études, des faits ? Mais je ne connais pas.
Lui non plus, apparemment. On peut juste remettre les choses en contexte ou comment ça se passe ? Ils sont où les faits et les chiffres de votre oppression, monsieur Zorg ? De vos discriminations au logement ou à l'emploi ? De votre précarisation économique ? De vos agressions à votre intégrité physique ? Ah oui, si, l'œuf, pardon. Au nom de votre couleur de peau, de votre genre ou de votre orientation sexuelle, qui est à la tête du pays dans absolument tous les domaines du politique, à l'économique, en passant par le médical? Qui? Les femmes noires, handicapées, transgenres, lesbiennes, pauvres? Rions, mes Adelphes, rions, plutôt que de pleurer.
Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, un raciste, un misogyne.
Non, pas du tout.
Misogyne? Je serais donc misogyne? Mais c'est encore plus ridicule. Enfant, au milieu de ces grandes familles venues d'Algérie, j'étais toujours entourée de femmes, ma mère, mes sœurs, mes grands-mères. Non, je suis pas miso, je connais une femme. Alors, même argument hein, que non, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, merci.
C'est grâce à son expérience et à ses souvenirs contés à l'enfant que j'étais que j'ai pu comprendre avant d'autres la régression inouïe que les femmes subissent aujourd'hui dans des quartiers où une immigration de masse a importé une civilisation islamique si cruelle avec les femmes. C'est sans doute pourquoi je suis le seul aujourd'hui, avec quelques associations courageuses, à établir sans fausse pudeur le lien évident entre cette immigration venue de l'autre côté de la Méditerranée et les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les femmes françaises, sur leur liberté, sur leur intégrité et parfois sur leur vie. Mais pendant ce temps-là, les féministes détournent le regard et nous parlent d'écriture inclusive.
Ou font des émissions de pédagogie militante bénévole sur la radio Prune. Donc là, merveille des merveilles, oui, Zorg est bel et bien féministe. Plus féministe que la plus féministe de tes copines, pour la bonne et simple raison que non. La misogynie systémique d'un pays qui persiste à moins rémunérer les femmes, à ne pas écouter leurs douleurs, à ne pas les intégrer aux essais pharmaceutiques de médicaments qui les tueront par leurs effets secondaires, à ne pas les écouter quand elles portent plainte contre leurs agresseurs, à mettre à des postes de pouvoir des violeurs.
Coucou Gérald.
Ou leurs défenseurs.
Coucou Eric.
À refuser la féminisation des noms de métiers, à poser des plafonds de verre dans les domaines de la politique et de l'économie. Tout ça, non, ça ne vient pas des cis-hêtes hétéro-blancs qu'on voit, par exemple, au gouvernement, ou à l'Assemblée à pousser des cris de poule, ou au conseil d'administration des grandes banques, ou au conseil de l'ordre des médecins, ou à la tête des conglomérats médiatiques qui possèdent tous les journaux. Non, ça ne vient pas d'eux, ça vient... Suspense insoutenable, intensité au max, goutte de sueur sur la tempe, ça vient des musulmans.
Ah, j'aurais dû m'en douter. Ce sont eux qui prennent les grandes décisions aujourd'hui en France.
Ce sont eux qui ont décidé de supprimer l'impôt sur la fortune. Oui, je sais hors sujet, mais bon, ça m'a échappé.
Ce sont eux qui se rient de nous quand on vient au commissariat dénoncer des viols, des miols, des viols conjugaux, des violences conjugales, des incestes et autres joyeusetés.
Ce sont eux qui foutent du GHB dans nos verres, dans des discothèques saturées de blancs, dont les physios noirs interdisent l'accès aux racisés, et en particulier aux musulmans. Alors comment font-ils pour glisser du GHB dans nos verres? Aucune idée, mais...
Ce sont eux, on vous dit!
C'est pas une anaphore qu'on vient de faire ?
Si, les anaphores permettent de lutter contre l'islamo-gauchisme et la misogynie, chat, au nom de la rance.
Au nom de la rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses, celles qui m'attendent au ciel et que j'adore.
On aura encore beaucoup à dire sur Zorg et discours en politique, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que malheureusement, on n'a qu'une heure pour tout traiter.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Et si, comme Castex au CHU de Nantes le 21 janvier dernier, vous souhaitez reconstruire votre culture à coups de Lego géant qui coûte 72 000 euros, bah, écoutez une autre émission.
La goutte d'eau qui fait déborder le vase de notre colère dans Charbons Ardents sur Prune vous refile des références gratuites ou pour le prix d'un kebab ou d'une pinte dans un pub facho parisien. On commence par un peu de lecture, un livre sans images, Yes We Can, et deux autres avec, oh oui.
Partons pour un voyage dans le temps, qu'a se dédié Princesse Anastasia, et allons à la rencontre d'une meuf archi-badass du 15e siècle qui s'appelle Christine de Pizan. Née en Italie, elle est considérée comme la première femme de lettres française. Alors la meuf devient veuve à 23 ans. Bon, elle s'est mariée à 14, hein, pas trop le choix. Et en charge de sa famille. Pendant quasiment 15 ans, elle se bat contre la dépression et les nécessités financières. En plus, son époque ne voit pas du tout d'un bon œil les veuves qui ne se remarient pas, qui n'entrent pas au couvent. Mais elle se démerde, la meuf, et en 1405, elle écrit La Cité des Dames, qui est un récit à la fois allégorique et utopique, dans lequel elle décrit la construction d'une cité qui permettrait d'abriter des dames. Alors, des dames au sens non pas de la noblesse de naissance, mais de ce qu'elle considère être la noblesse de l'esprit. Donc, elle cite de nombreuses figures féminines du passé comme modèle. En pleine période obscurantiste de chasse aux sorcières, la meuf gère la fougère.
Ce modèle a d'ailleurs influencé la communauté de femmes vivant dans les bois, dans la BD de Roxane Moreuil et Cyril Pedrosa qui s'appelle L'Âge d'or, parue en 2018, dans laquelle la figure héroïque, politique et guerrière de premier plan est la princesse Tilda, qui cherche à reconquérir son trône usurpé par son frère. Étonnant. Et en BD toujours, on ne présente plus la très connue série culottée de Pénélope Bagieu, qui nous rappelle, à la manière de Christine de Pizan, qu'il y a bel et bien eu des femmes de pouvoir, des femmes d'invention, qui ont jalonné notre histoire.
En matière de série, on va vous donner deux exemples aujourd'hui qui sont tous deux des mockumentaries. Le mockumentary, c'est une série ou un film qui utilise la forme du documentaire, mais pour présenter des intrigues et personnages fictionnels, un petit peu comme The Office.
Pour commencer, on vous recommande le visionnage de VIP, l'hilarante série d'HBO qui met en avant le personnage de Selina Meyer, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, que l'on suit dans sa vie politique. Elle est vice-présidente des États-Unis quand la série commence, d'où le titre. Et on va suivre l'évolution de sa carrière sur cette saison qui satirise le système politique américain et sa misogynie.
Politics is about people.
Politics is about people.
I've met some people, okay, real people, and I gotta tell you, a lot of them are idiots.
Et dans le même esprit, mais pas du tout le même type de personnage, nous, on est perso des grosses fans d'Amy Poehler dans le rôle de Leslie Knope, une merveilleusement naïve et idéaliste conseillère municipale de la charmante ville de Pawnee, Indiana, dans la série Parks and Recreation. Alors comme le titre l'indique, elle est en charge de la gestion des parcs et activités de la ville, ce qui montre bien là la restriction des activités données aux femmes, toujours en lien avec le care. Son personnage est déterminé, super féministe, très mignonnement femme des femmes politiques qui l'ont précédée. Elle fait absolument aucune concession sur son caractère qui est d'être une grosse utopiste totalement déconnectée des réalités badantes du monde. Mais elle embrasse justement toutes ces caractéristiques qu'on dit féminines pour en faire des forces et définir ce que serait une politique idéale. La série est super drôle, ça satirise très bien le racisme, l'immobilisme, la misogynie de l'administration et ça met bien en avant aussi des histoires d'amitié super kawaii.
As long as you and I are cool. You know my code. Hoes before bros. Uteruses before deuteruses.
Got it.
Ovaries before brovaries.
You make such good coffee.
On finira par faire une mention spéciale aux meufs de The Politician pour leur diversité. Racisées, grosses, lesbiennes, non valides, quinca et sexagénaires, avec des gros propos contre l'eugénisme, elles incarnent bien les problématiques qui doivent trouver leur place en politique, tout en n'étant pas du tout idéalisées, puisque dans cette série, tout le monde est plus ou moins un trou de cul. Et ça aussi c'est cool, parce que c'est chiant de faire des quotas de diversité des personnages toujours sympas, rigolos et gentils. Les minorités opprimées aussi ont le droit de pas être idéales et parfaites.
Pour le droit à être un trou de cul. Pour poursuivre le travail de déconstruction, un outil bien pratique, on va vous parler vite fait de la chaîne YouTube Last Week Chez Moi, où Isabelle Châtaignier, qui est une ancienne avocate devenue enseignante en art oratoire, propose depuis peu une série de vidéos qui justement explique les figures rhétoriques pour permettre de contrer les arguments fallacieux. Elle donne pas mal d'exemples précis qui sont utilisés en politique. On vous recommande la première vidéo qui parle du whataboutisme, mais aussi de celle qui désingue la rhétorique et la dialectique chez Disney. Isabelle Châtaignier, elle a aussi coécrit un livre qui s'appelle « Petit manuel de mauvaise foi ». Il est paru en 2020. L'idée, c'est de nous apprendre à lutter contre un interlocuteur qui fait preuve de mauvaise foi à travers des exemples historiques, politiques, cinéma. Après, bon, des gens qui font preuve de mauvaise foi, il n'y en a quand même pas beaucoup aujourd'hui.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans Feu à volonté, on parle d'éléments de langage qui sont les briques légaux de nos oppressions ou les briques légaux de notre émancipation. Oui, on est fâché de cette affaire de gros Lego super cher. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous en aurez deux pour le prix d'un. Et ouais, c'est parti !
On va commencer par évoquer ensemble le principe d'équité plutôt que celui d'égalité.
Alors, c'est quoi votre problème à vous les féministes non-universalistes avec votre sacro-saint principe non appliqué d'égalité ?
Jean Mascu, l'égalité, bizarrement, ça efface les différences et ça les prend pas en compte, donc c'est un peu con, si tant est qu'elle existe. En effet, reconnaître les différences, c'est pas forcément les rejeter, en fait. C'est plutôt bien accepter d'en tenir compte quand on établit une politique. Pour donner un exemple concret, UN Women a fait le constat que 3/4 des personnes en dessous du seuil de pauvreté extrême, c'est-à-dire vivant avec moins d'un dollar par jour, sont des femmes.
3/4. Est-ce que les politiques s'arrêtent pour s'interroger sur un tel chiffre et mettent en place des mesures ?
Non, parce que ce serait pas égalitaire à leurs yeux. Ce ne serait pas universaliste, tu comprends ça ? Les pauvres forment une masse dont on ne cherche pas à savoir quoi que ce soit. S'ils sont racisés, s'ils sont des femmes, s'ils sont valides, on s'en branle. Sauf en temps d'élection, hein. Attention, le populisme à ce moment-là aime bien parler aux pauvres et diaboliser l'immigration comme source de toute pauvreté. Or ce n'est pas en fait l'immigration, et oui, gros spoiler, la source de pauvreté, mais bien les politiques libérales capitalistes qui ne songent qu'à l'accroissement des richesses des premiers de cordée, guillemets, comme si elles allaient véritablement redégringoler jusqu'aux plus pauvres d'entre nous. Alors l'égalité, finalement, elle est là pour gommer les différences dans l'idée qu'on va attribuer à tous le même traitement, celui qui est adapté aux cis-het hétéro-blancs. L'équité, en revanche, elle est là pour intégrer les différences au jugement de la situation et apporter à chacun chacune les solutions adaptées et adéquates. À ce propos, on vous propose d'aller lire Carole Gilligan, Une voix différente. Elle explique ça nickel.
Attends, tu veux dire que le ruissellement, c'est du pipeau ? Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Après avoir étudié un panel de figures de rhétorique françaises utilisant politique pour nous retourner la tête, on va faire un petit arrêt sur image du vocabulaire militant avec le concept de « sea lioning ». Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi ce terme n'a pas d'équivalent francophone ? Le terme est récent puisqu'il est dérivé d'une BD de 2014, « Wondermark » de David Malky. Je vous invite à aller la voir, ce serait trop long de vous la décrire. « Sea lioning », ça signifie littéralement « faire l'otarie » en français. Comme les marins qui se faisaient berner par des otaries en les prenant pour des sirènes, cette pratique est en fait un type de trollage, voire de harcèlement, qui consiste à poser des questions et tenter en surface d'engager le débat de manière polie, alors même que l'interlocuteur cherche uniquement à piéger la personne en face de lui. Difficile de le reconnaître, car en apparence on peut avoir l'impression qu'on nous pose des questions en toute bonne foi, et difficile aussi de le désarmer car la personne qui le pratique est généralement d'une extrême politesse. Ne vous fiez pas aux apparences. Le but ultime du sea lioning, c'est au mieux de réussir à vous piéger sur votre discours militant, au pire de vous faire perdre votre temps et votre patience.
Dans Mettre le feu aux poudres, Charbons Ardents vous propose d'aller à la rencontre de gentes qui font de leur temps libre un temps de conquête de liberté pour la collectivité, un espace safe dans lequel vous aussi vous pourriez peut-être, qui sait, trouver votre place et votre voix.
Aujourd'hui, on s'intéresse à Nantes en commun, commune. C'est un tout jeune mouvement né en 2019 qui vise la réappropriation de la ville par et pour ses habitants. Inscrite aux élections municipales de 2020 avec un projet d'écologie populaire et d'autonomie locale, leur liste a récolté un peu moins de 10% des suffrages. Nantes en commun, commune œuvre au quotidien pour que nous retrouvions des moyens d'agir sur la ville au travers de nombreuses actions. Enquêtes, mobilisations collectives, création de communs, mais aussi un média, l'ORTN, et des événements participatifs au sein de leur QG, le café associatif, le Chapeau Rouge. On écoute tout de suite Morgane Petitot nous parler du projet. Elle est membre du collectif depuis ses débuts et a été candidate aux dernières élections municipales.
Bonjour Morgane.
Bonjour.
Pour commencer, je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Nantes en commun commune ?
À l'époque, moi je travaillais dans des institutions justement sur les questions d'égalité, des institutions territoriales. Et en fait, je faisais juste le constat criant que c'était très difficile d'être dans des institutions et juste d'être dans un bureau et d'avoir l'impression d'agir sur l'égalité. Et donc, à ce moment-là, dans Nantes en commun, un petit groupe de personnes était en train de réfléchir à comment se réapproprier les savoirs autour de la ville, dont on était dépossédé du coup par ces institutions qui décidaient à notre place et faisaient un peu de démocratie participative, mais dont on se sentait souvent totalement lésés. Et donc, à ce moment-là, on m'a dit, mais viens, en fait, on fait des enquêtes, on essaye de comprendre comment fonctionne la ville, les transports, l'énergie, l'alimentation, comment est-ce qu'on pourrait retrouver de l'autonomie là-dessus, que ce soit une autonomie qui parle d'écologie, mais populaire, qui soit vraiment sociale, où tout le monde ait sa place, et en particulier les personnes les plus pauvres. Et donc, on a lancé des enquêtes comme ça, on se retrouvait dans les cafés, dans les bars, dans les parcs, et où on avait tout un processus pour se réapproprier les savoirs et ensuite directement faire les choses, sans attendre personne, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a lancé le Café du Chapeau Rouge, parce qu'on a envie de recréer des lieux de convivialité. On a fait le constat qu'il n'y avait plus assez de cafés et de lieux où les associations peuvent se réunir sans avoir besoin de payer à Nantes. Et donc, on a monté le Chapeau Rouge, par exemple. Nous, notre but, c'est de sortir du système marchand tous les besoins de notre vie, tous les moyens de subsistance, que ce soit l'alimentation, l'énergie, le logement plus tard. Et donc, aujourd'hui, à l'issue des enquêtes, on est en train de créer un fournisseur et producteur d'énergie qui s'appelle Énergie de Nantes. Le but, là, c'est, quand on voit l'augmentation des prix de l'énergie, qu'on puisse avoir nous-mêmes nos moyens de production, du coup, ne pas être dépendant, ou en tout cas moins dépendant de l'augmentation des prix, et de pouvoir nous-mêmes décider d'où vient cette production, donc qu'elle soit locale et en énergie renouvelable, et que ça soit les habitants, c'est sous format associatif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spéculation, et donc ça permettra d'avoir accès au prix le plus bas, et que ça ne soit pas des grosses structures nationales, ou même nucléaires, comme aujourd'hui le système de l'énergie, c'est vraiment une petite boîte noire où tout est centralisé. Nous, on a vraiment besoin de le remettre au niveau local, dans les quartiers.
Trop bien. Alors, quel constat, toi et le mouvement, vous faites sur la place des femmes en politique aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a plutôt une politique d'essayer de mettre en place la parité, sauf qu'en fait, ça ne remet pas en cause le système profond dans lequel aujourd'hui la politique est faite, de manière viriliste, plutôt basée autour de la compétition, plutôt basée autour du fait qu'on cherche à privatiser de plus en plus de choses. Et donc, le but, c'est de remettre au centre de la politique le prendre soin, qu'aujourd'hui, les femmes prennent souvent donc beaucoup plus en charge de par les tâches qu'on nous confie dès l'enfant. Et donc, il y a un peu ce constat-là. Une politique féministe, c'est pas seulement une politique donc de parité, c'est surtout le fait qu'on a besoin de retrouver de l'autonomie quotidienne, on a besoin de ne plus se sentir seule dans nos vies. Quand on a des enfants, quand on travaille justement à temps plein à côté, ça nous permet d'avoir très peu finalement de solidarité autour de nous. Et donc, comment est-ce qu'on retrouve cette autonomie ? Par exemple, les femmes avaient les champs qu'elles cultivaient, on avait beaucoup plus de savoir autour de la santé. Et donc, c'est le but de retrouver cette solidarité et cette autonomie au niveau concret, d'avoir des terres agricoles, d'avoir des lieux où se retrouver, d'avoir des liens de solidarité forts dans nos bassins de vie. Et donc ça, à l'échelle d'un quartier, on n'a pas envie d'abandonner les villes. Justement, on pense que les villes sont vraiment un endroit où peuvent fleurir toutes ces solidarités-là. Et donc, pour nous, une politique féministe, c'est une politique où on recrée du lien entre les personnes et qu'on s'autonomise de systèmes seulement marchands pour notre alimentation, notre logement, notre énergie et tout ce qui touche à notre vie concrète.
Justement, tu parles du temps qui est consacré à la vie en politique. Nous, on a parlé du fait que pour les femmes, c'était pas la même temporalité que pour les hommes. Toi, quel est ton rapport à cette temporalité en tant qu'engagée bénévole ?
Effectivement, ça demande des choix. Moi, j'ai fait le choix de savoir que je ne serai jamais riche parce que j'ai envie d'avoir un niveau de vie qui correspond aussi à mes besoins concrets. Et donc, aujourd'hui, je travaille à mi-temps à côté, plutôt de nuit. Et donc, ça me permet la journée de mettre en place politiquement tout ce qu'on est en train de dire, de pouvoir être au Chapeau Rouge et de faire vivre le lieu, de pouvoir donner un coup de main à Énergie de Nantes pour lancer le fournisseur, de pouvoir aller cultiver sur les terres agricoles à Comminchamps où on commence à cultiver à Mauves-sur-Loire. Et donc, vraiment, de pouvoir mettre en place concrètement cette politique. Mais aussi, c'est aussi un privilège que de pouvoir faire ce choix, que de travailler à mi-temps parce que j'ai pas d'enfants. Le but de l'engagement de tous les projets qu'on a, c'est aussi que si on s'investit dans les communs, ça peut nous permettre d'avoir moins de dépenses d'argent dans notre vie quotidienne parce qu'on pourra avoir des légumes des champs qu'on est en train de cultiver. On va pouvoir avoir des solidarités qui vont faire que les enfants, on va pouvoir les garder mutuellement. Les lieux où on est dans les cafés et les bars, bah, ça sera moins cher. Donc en fait, ça va permettre de réduire nos dépenses de vie et donc aussi de pouvoir se libérer du temps pour recréer cette communauté et cette solidarité. C'est un cercle vertueux finalement qui peut permettre au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de temps à consacrer à ces communs, à cette solidarité.
Du coup, comment œuvrez-vous pour la visibilité et la prise de pouvoir des femmes en politique ?
Dans tous nos modes d'action, on est en tout cas très attentive à justement cette place que chacun, chacune peuvent avoir dans les collectifs. Et donc, comment est-ce que chacun trouve un rôle qui lui convient et pas seulement le rôle qu'on attend de la personne. Et donc, d'essayer d'autonomiser au maximum au niveau du partage des connaissances et des savoirs. Et donc ça, déjà, ça permet d'essayer qu'il y ait le moins possible de prise de pouvoir informelle dans le collectif. Ensuite aussi, de pouvoir écouter beaucoup, en fait, les vécus. Comme on donne une grande place à l'expérience dans le mouvement, ça veut dire qu'on va beaucoup entendre aussi les vécus des personnes qui sont considérées comme femmes ou des minorités de genre. Et donc, en fait, ça permet de prendre compte le vécu, en fait, et aussi de mettre à l'avant-garde ces besoins-là en priorité, en fait, comme c'est les besoins de notre vie quotidienne, et que souvent, la charge de la vie quotidienne est prise par des femmes. Forcément, ça parle beaucoup plus aux femmes et ça permet de les autonomiser, de nous autonomiser.
Merci beaucoup, Morgane, pour toute cette interview hyper éclairante.
Merci à vous.
Et puis, je pense à très bientôt.
À très bientôt, avec plaisir.
Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.